Mon très cher Zen,
Mon très cher ancien.
ça va, on dit quoi?
Ça va, ça va.
Ça
Ça va
raconte
bien.
bien.
Alors qu'est-ce que ça raconte? Ben déjà, tu vois, je suis de bonne humeur parce qu'il fait beau.
C'est bien.
Ouais.
Un progrès, un progrès.
Voilà. Bon, il y a cette petite période de pollen.
Ouais.
Tu vois, c'est bien ça en rapport avec la thématique d'aujourd'hui, tu vois.
Ah ouais, le
Parce que
pollen, tu peux pas le
ça.
rater.
Voilà, ça va te faire cette petite obstruction des naseaux.
Ouais. Pas facile le pollen. Hein. Beaucoup de gens qui se font frapper. On leur souhaite beaucoup de courage.
Le pollen qui est aussi une variété de.
C'est bon.
Voilà,
Effectivement.
une variété de produits stupéfiants.
Spéciale dédicace à Ayam.
Voilà, exactement. Le popo.
Qu'est-ce que
Ouais.
tu portes dans cette journée?
Alors, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte Incense Kyoto comme des garçons.
Sale.
Voilà.
Ah
Voilà.
ouais.
Et je tiens à remercier mon très cher Zaïd.
Ouais.
Voilà, c'est lui qui m'a remis ce présent. Et franchement, je lui en suis gré.
C'est bien. Ça va, ça dit quoi, ça raconte quoi? C'est puissant ou pas?
Ah bah c'est encens, c'est poivre,
Ouais.
c'est ce que j'aime, tu vois. L'ambiance lourde.
Ouais, je vois le truc. Non, mais pff, comme des garçons, quoi, tu vois.
Ouais.
Des thématiques bourbier, ils ne se gênent pas pour être bourbier.
Ouais, puis moi c'est ce que j'aime. J'aime bien, tu vois, les prises de parti comme ça, tu vois.
Ouais.
C'est clair.
Ouais.
Voilà, on va dans une direction, voilà, on ne tergiverse pas.
Ah ouais.
Et toi, qu'est-ce que tu portes? Ben déjà, dans un premier temps, toi, comment ça va?
Ben, écoute, ça va. Voilà. On est là, on est dans ces mouvements, dans ces voyages, on patiente. C'est tout. Je remercie mon très cher Batman d'avoir accueilli l'enregistrement de cet épisode.
Merci à Batman.
Voilà. Et puis c'est tout, hein, rien de spécial. On a mis ce petit Milky Dragon, Isabelle La Réunion, pour.
C'est cool.
Ouais, franchement, j'aime beaucoup ce parfum.
Ouais, tu parles de voyage, tu vois, j'imagine bien Desireless porter ce parfum, tu
Effectivement. Ça, on passe le bonjour à tous les fans de Desireless. De plus de 70 ans.
Voilà.
Ouais. Alors, en tout cas, voilà. Bon, on est bien, quoi. On est bien. C'est intéressant, le voyage, parce que malgré tout, tu sais, t'es toujours porté par des choses. On va parler beaucoup de mémoire aujourd'hui. Il y a toujours ces petites odeurs qui passent, tu sais, des fois, ça dépend comment tu voyages, évidemment, mais tu passes dans des gares, dans des aéroports, t'as des odeurs de café. Ça reste toujours. Ça reste toujours. Tu vas identifier la gare ou l'aéroport souvent à ce genre d'odeur, en fait, sans le savoir. Et 10 ans après, tu vas y repenser en sentant la même odeur.
Ouais, c'est vrai. Ben, tu sais, regarde, moi, par exemple, tu sais, quand il fait beau comme ça m'est revenu à l'esprit et c'est vraiment un souvenir qui est sans rapport avec une odeur, tu vois. Tu sais, les périodes comme ça, quand j'étais petit, quand c'était en primaire, on allait à la piscine Paul Langevin,
Ouais.
la piscine Paul Langevin, Bobigny. Pourtant, tu vois, par la suite, on a fait des piscines, tu vois. Mais en fait, l'odeur du chlore,
Ça va, la première.
voilà, c'est vraiment, c'est associé à, ben voilà, tu vois, tu sais, on y allait à pied,
Ouais.
voilà, enfin, je me rappelle, tu vois, surtout, tu sais, quand il faisait beau, il faisait chaud, on était content d'aller à la piscine, puis c'était un moment où on n'était pas coincé en salle de classe, tout ça. Ben, tu sais, cette odeur de chlore-là, c'est associé à des bons souvenirs, en fait.
Ouais.
Bon, des moments où j'ai bu la tasse aussi, mais bon, tu vois, c'était.
Ouais, effectivement. Ouais, il faut l'apprentissage.
Voilà.
Bon, je passe le bonjour à ceux qui entretiennent la piscine du Colombier à Créteil.
Ouais.
Voilà. Même chose.
Ah oui, j'aimerais porter un toast. Voilà. J'aimerais lever ma tasse de café à Anek et Snoopy.
Ah, effectivement.
Merci beaucoup pour cet arabica, ce robusta mélangé.
On les remercie bien. Et les autres, hein, Soaking Chaos, Camille Redon, Léo, cette très chère Ipti. Et puis voilà, tous les autres, hein, qui ont participé. On remercie même Karine Chevalier, on t'a vu, très chère parfumeuse, qui nous a soutenus. Ça fait très très plaisir. Ça nous donne de la force et de l'énergie, mon très cher Zen.
Ouais. Ah oui, j'aimerais passer une petite dédicace à Abdel Ali. Voilà, il
Oh.
se reconnaîtra. C'est un fervent auditeur. C'est un bon pote à mon frère. Un des
Ah,
types les
ça...
plus stylés à qui j'ai eu le plaisir d'avoir affaire.
Ah,
Voilà,
bah,
ouais.
très bien.
Non,
Il
non,
faut
j'aime bien l'élégant. L'élégant, j'aime
prolonger ce style alors. On lui
Voilà.
passe ce bonjour.
Ouais.
Mon très cher Zen, on a à l'heure où vous écoutez cet enregistrement, il y a les finales du Baltrap qui sont ouvertes. Il faut aller voter. À l'heure où on parle, on n'a pas les résultats, puisque ça a été enregistré avant d'avoir les juste avant d'avoir les résultats. On aura les résultats ce soir. Donc, eh ben, on continue. On a nettoyé tout ce qu'il fallait nettoyer, sans mauvais jeu de mots, hein. Et j'ai vu, en tout cas, de base, certaines fragrances se démarquer. On verra bien ce qu'il en est ce soir. Mais en tout cas, allez voter pour ces finales. On aura les lauréats dans le dernier épisode. Donc, dans 3 épisodes, ce sera les fameux lauréats du Baltrap fin de saison. Très bien. Mais on va rester dans tous ces domaines, dans l'olfaction, dans l'importance de l'éducation olfactive, par laquelle on n'a pas été très touché, malheureusement. Et on va accueillir une très très chère journaliste, écrivaine, membre du collectif Né, donc quelqu'un vraiment qui a, à mon sens, vraiment un rôle pour moi important, un peu comme on a parlé de Jeanne Doré. C'est quelqu'un dont j'ai lu beaucoup d'écrits avant d'arriver à ce podcast, quoi. Donc c'est plutôt cool. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de l'importance de l'éducation olfactive. Et pour ça, on va accueillir cette très chère Sarah Boisse. J'espère que tout va bien déjà.
Eh bien, tout va très bien, bonjour à vous et merci de me recevoir.
C'est nous qui te remercions d'être là. C'est un honneur. Comme je disais en off, ça fait j'ai longtemps suivi le fameux Flair Flair, ton blog
Merci.
sur Internet, que vraiment j'ai suivi avec celui de Denise Beaulieu et Dr. Jiki et Mr. Phoebus.
Ouais.
Et puis celui de Patrice Révillard, celui de Dominique Archambault. Ça, c'est notre base ici. Donc on est très honorés.
Bah, merci beaucoup et puis merci de faire mention de ce blog qui est un peu en jachère. J'ai recommencé un peu à l'alimenter depuis quelques années.
Ouais.
Mais j'ai perdu le rythme des débuts où il y avait vraiment voilà, au moins un poste tous les mois.
Ouais, effectivement, moi, il y avait toute cette période où il y avait énormément de. Enfin, énormément. Non. Il y avait du contenu sur tous ces blogs. Ça a bougé beaucoup. Et puis, de toute façon, il y a aussi un parcours professionnel qui change les choses et même personnel. C'est un peu normal.
Oui, c'est vrai qu'on fait souvent carrière après dans cet univers-là et peut-être qu'ils
Ouais.
ont eu un peu de temps à consacrer au blog. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu aussi une multiplication des sources de contenu qui, je ne vais pas dire, a rendu le travail moins nécessaire, mais en tout cas, nous a fait perdre de vue que c'était important de continuer de le faire.
C'est sûr. Et puis, de toute façon, le rôle d'Au Parfum est donné, hein, qui a vraiment pris de l'ampleur. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que c'est carré. Tu as beaucoup bossé pour le collectif Né. Comment tu vois la différence entre Flair et ton travail pour Né?
Bah déjà, je pense que la force de frappe est incomparable. Né a eu la bonne idée quand même de fédérer une bonne partie de ces voix que tu as citées au début, que ce soit Denise Beaulieu, Patrice Révillard, Alexis Toublan, personnes qui écrivaient déjà en fait sur Internet ou qui participaient sur Au Parfum, au forum, Yoann Servi aussi qui était très active, Juliette Fallu, tous ces gens qui avaient déjà une voix sur Internet, finalement de leur proposer un projet qui les réunirait tous. Et je pense que ça a été ça la force de Né au départ, c'était de réunir toutes ces voix dans un seul support qui en plus était papier, qui en plus était très beau. Pour moi, la grosse différence, elle a été là déjà. Et pour parler de mon cas à moi, c'était surtout sur le genre de sujet traité que j'ai été amenée à faire des choses que j'avais jamais faites avant, comme par exemple le premier numéro, un reportage plutôt matière première. Ça, c'était un domaine dans lequel j'avais très peu de connaissances avant Né, ou des interviews vraiment sur des longs formats. J'en faisais déjà un peu sur Flair, mais c'est vrai que je trouve que ça donne un poids aux mots différents quand ils sont imprimés sur le papier. Et moi, il y a quelque chose par contre que j'ai pas fait par la suite, enfin que j'ai laissé vraiment sur Flair, c'était que j'ai toujours aimé, qui est d'interroger des personnes un peu de la vraie vie, quoi. C'est-à-dire pas des parfumeurs, pas des gens même de l'industrie tout court, des gens qui n'y connaissent rien entre guillemets, c'est-à-dire qui sont pas experts, mais qui en fait en savent beaucoup. Et de les faire parler sur les parfums qu'ils aiment, ou plus récemment, là, comme j'ai commencé à le faire, sur les odeurs qui ont du sens pour elles dans leur vie. Ça, c'est quelque chose que pour l'instant, je n'ai fait que sur Flair et que je trouve super. C'est toujours génial d'interroger les gens sur les odeurs qui les marquent et qui les ont déterminées. Il y a toujours tellement de choses à raconter et ça permet de se rendre compte à chaque fois à quel point, en fait, l'odorat, qu'on en ait conscience ou pas, joue un rôle absolument énorme dans nos vies.
Effectivement. Bah, justement, moi, je voulais savoir la différence entre ton travail de journaliste et justement ton travail pour René.
Je dirais que c'est proche, enfin, c'est-à-dire que je suis journaliste dans les deux cas. Et simplement, je pense que dans Né, la vraie différence pour moi, c'était de pouvoir traiter des sujets qui n'existaient nulle part ailleurs et que j'aurais jamais, ne serait-ce qu'imaginé, pouvoir faire ailleurs dans d'autres publications. Donc ça reste un travail de journaliste dans les deux cas. Mais Né est le seul magazine que je connaisse qui puisse un jour me demander d'enquêter sur ce que ça sent dans l'espace, quoi. Ça n'intéresse absolument personne d'autre. Et en fait, ne serait-ce que d'écrire des sujets pour Né où il n'y a rien à vendre, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas particulièrement de produits, ça a été pour moi un plaisir infini, quoi, parce que le problème, entre guillemets, du journalisme parfum tel que je le pratique ailleurs, c'est qu'il est quand même extrêmement lié aux annonceurs, c'est-à-dire qu'on fait des sujets en fonction des actualités des marques qui payent des pages de pub dans les magazines. Alors ça n'empêche pas de faire des choses intéressantes et parfois même intelligentes, mais c'est quand même une contrainte assez forte dont il faut pouvoir s'accommoder et qui conditionne assez largement quand même notre travail. Donc là, d'arriver chez Né, où on pouvait parler de parfums sortis il y a 30, 50, voire 120 ans, ou de faire des papiers dans lesquels il n'y a rien à vendre, ça, c'était vraiment quelque chose pour moi qui a été, je pense, très libérateur et qui m'a permis, en fait, de tout simplement de persévérer dans ce domaine-là, parce que ça peut avoir un côté un peu frustrant, en fait, d'être journaliste parfum quand on aime vraiment le parfum
C'est pas
aussi.
faux.
Là, je vais enchaîner avec la traduction que tu as réalisée du livre de Mandy Haftel, Essence Alchimie. Bon, mon accent anglais n'est pas terrible. Et j'aimerais bien que tu nous parles justement de cette expérience qui t'a amené à faire ça.
Moi, j'ai toujours été passionnée de traduction, pour la petite anecdote. J'ai toujours adoré ça. J'ai fait des études d'anglais avant de faire des études de journalisme. Et pendant longtemps, mon but, ça a été de devenir traductrice ou bien enseignante de traduction. J'avais une prof de traduction qui était géniale et je me disais, mais c'est merveilleux de pouvoir transmettre cette passion-là. Bref, je referme la parenthèse, mais donc j'ai fait des traductions pour des magazines, j'ai écrit des articles en anglais, enfin j'ai souvent eu une dimension un peu bilingue dans mon travail, mais pour autant j'avais jamais fait de traduction sur le long cours comme ça. Et c'est Jeanne Doré qui m'a proposé de m'occuper de cette traduction. Ils étaient en contact avec Mandy Haftel, qui est donc une parfumeuse américaine un peu pionnière de la parfumerie artisanale naturelle. Et qui a écrit dans les années, elle a écrit dans les années 90. Il a été publié pour la première fois en 2001, ce bouquin qui s'appelle Essence et Alchimie. Et qui est une sorte de guide, c'est à moitié une histoire très théorique de la parfumerie et à moitié un guide do it yourself pour apprendre à faire du parfum avec des essences donc exclusivement naturelles. Et ce livre, moi, je ne l'avais jamais lu, mais il m'avait souvent été cité par des parfumeurs, notamment des parfumeurs autodidactes, comme on peut en rencontrer certains dans la niche, qui m'avaient dit à quel point ce livre avait été pour eux. Une étape fondatrice, quoi, parce que quand on a commencé la parfumerie à une époque où il n'y avait pas Internet, où il n'existait pas tous les blogs dont on a parlé justement, où il y avait peu de contenu en fait accessible en ligne, où il fallait se déplacer en librairie pour espérer trouver quelque chose, il y avait vraiment un créneau à prendre et Mandy est arrivée et elle a décidé de compiler donc dans un livre tout ce qu'elle avait appris elle en tant que parfumeuse autodidacte. Et je pense que vraiment ce livre, il est venu se mettre à un endroit où il n'y avait rien et il a répondu à pas mal de questionnements pour des gens qui n'avaient finalement que peu de sources pour s'intéresser à la parfumerie ou décider d'en faire leur métier ou même d'apprendre un peu les bases, quoi. C'était un livre très important pour beaucoup de gens. Et quand Jeanne m'en a parlé, j'étais évidemment déjà très emballée par la perspective de traduire un livre tout court. Et elle m'a donné un exemplaire de donc Essence and Alchemy en anglais. Et j'ai lu ça l'été dernier et j'ai été époustouflée, quoi. Ça m'a fait énormément de bien. Je crois que c'est aussi arrivé un moment où je pouvais être un peu lassée en fait, par l'industrie qui est sans arrêt en train de sortir des nouveautés, des produits. Enfin, c'est toujours très produit, encore une fois. Et là, c'est un bouquin qui parle d'essence naturelle, quoi, qui parle de plantes, qui parle de composition, qui cite quasiment aucune marque, qui n'est pas là non plus pour vendre grand-chose, qui est justement là pour apprendre à faire soi-même. Et j'ai trouvé que c'était super rafraîchissant, en fait. Donc, j'ai dit oui et je m'y suis plongée avec beaucoup de plaisir depuis la rentrée dernière, la septembre 2022, jusqu'à, je ne sais pas, avril, quelque chose comme ça. Et c'était franchement une bulle d'air.
Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment un livre référence, on peut le dire comme ça, pour se cultiver, pour apprendre, pour voir autre chose, pour qu'on parlait avec, on a parlé avec Jeanne Doré, ça donne une autre vision aussi de l'olfaction, parce que c'est une vision américaine, tout simplement, et on ne voit pas les choses de la même manière. Moi, je profite pour rebondir sur ce côté bilingue. Est-ce que tu penses que ça t'a donné de l'avance un peu, tu sais, parce qu'on parlait de tout ça, on disait que vraiment au niveau anglophone, c'était la critique parfum, pour l'appeler comme ça, c'était très très développé, très avancé, on va dire, alors qu'il n'y avait rien du tout en France, à part des trucs, tu sais, des articles payants, quoi. Articles invités, comme on appelle ça. Toi, tu vois ça comme un avantage, enfin, j'ai un peu la réponse, mais à quel niveau, pour toi, en tout cas, ça t'a servi?
Bah, je pense sûrement que ça a été un avantage, alors peut-être pas au point où ça m'aurait permis de profiter des quelques années où la critique parfum n'existait que en anglais. Parce que je suis peut-être encore un peu trop jeune pour avoir vraiment pu faire la différence sur ces
Ouais, c'est
quelques
vrai.
années, les années 2000. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a donné accès à des livres que j'ai lus assez tôt quand j'ai commencé à m'intéresser aux parfums. Je pense notamment au Guide des parfums de Luca Turin, évidemment, que j'ai lu quasiment comme un roman. Je ne sais pas combien de temps après sa sortie, mais en tout cas assez tôt dans ma carrière. J'ai aussi beaucoup aimé un livre de Chandler Burr qui s'appelle The Perfect Scent, qui raconte le développement de plusieurs parfums en maison de composition et qui est le premier livre qui m'a vraiment permis de comprendre en fait ce que c'était que la création d'un parfum aujourd'hui. Ça a démystifié beaucoup de choses pour moi. Et puis évidemment, le fait de pouvoir lire par exemple des blogs comme Bois de Jasmin,
Oui.
qui n'existe qu'en anglais et qui est, enfin, ce blog, c'est la folie, quoi.
C'est
Enfin,
une
c'est
mine
hallucinant.
d'or.
Le nombre de contenu qu'il y a, la qualité de tout, quoi. Tout est merveilleux. Donc ça, c'est vrai que ça m'a sûrement aidé. Je ne sais pas si ça m'a donné une longueur d'avance, mais sûrement que ça m'a permis d'avoir accès à des contenus qui ont enrichi en tout cas ma vision de la chose. Et en termes de critique, c'est sûr que avoir accès à Luca Turin,
Oui, ah oui, ah
c'était
oui.
un plus, ouais.
Ah ouais. On l'oublie souvent parce qu'il n'est pas trop actuel, mais vraiment, Luca Turin, ça, c'est quelqu'un qui a changé les choses dans la prise de parole, quoi.
Ouais.
On se doit de le saluer.
Ouais, on souhaite le saluer, ouais, c'est sûr. Même si moi, j'ai l'impression finalement d'avoir faire partie d'une génération pour qui la critique de parfum, je dis pas qu'elle a toujours été là, mais j'ai peut-être pas, j'ai pas vécu le point de bascule en fait du moment où les parfumeurs étaient dans l'ombre, personne ne savait même qu'ils existaient, personne ne parlait de parfum, il y avait que le discours de la marque. Moi, je sais pas, c'est peut-être faux, mais j'ai l'impression finalement que, je sais pas, quand j'avais 20 ans, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient là, et j'ai la chance d'avoir pu, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au parfum, trouver assez, peut-être pas facilement, mais en tout cas, voilà, j'allumais un ordinateur, je pouvais déjà avoir accès à pas mal de choses. À mon avis, pour des gens qui ont aujourd'hui 50 ou 60 ans, il y a vraiment eu un avant et un après, quoi.
Ah oui, c'est deux mondes, bien sûr, c'est deux mondes.
Ça, c'est sûr.
Nous, vraiment, on a grandi, il n'y avait rien. Comme tu dis, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas. On avait toujours cette espèce de propagande de l'industrie, tu sais, du monde du rêve, du parfum, et que bah, tout est opaque. Voilà, tu es face finalement à une glace sans teint, quoi. Et maintenant, vraiment, on a accès à tout. Ça a commencé par du blabla, évidemment, des gens qui racontent un peu n'importe quoi, mais ça a creusé, ça a percé, c'est ça, vraiment ça. On vit complètement autre chose, ça c'est sûr. Ça c'est
C'est
sûr.
ça, et aujourd'hui c'est quand même très important parce que quand on s'intéresse au parfum ou même aux odeurs en fait, parce qu'au-delà du parfum il y a quand même l'odeur, et de pouvoir taper dans une barre de recherche une question relative à une odeur ou à un parfum et d'avoir une réponse dans un monde où on ne parle quasiment pas d'odeur et on parle très peu de parfum, je veux dire dans la vie tous les jours. C'est déjà énorme en fait, parce que je pense que pour des personnes qui ont une sorte d'intérêt a priori pour ces univers-là, ça peut leur permettre de savoir assez facilement que oui, c'est un sujet et non, ils ne sont pas tout seuls. Alors que probablement avant Internet, sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui ont tué totalement un intérêt ou une curiosité pour les odeurs,
Ah
sans
oui, c'est
trouver vraiment
sûr.
de répondant ou que ce soit quoi.
Effectivement, aujourd'hui, on parle plus de marques, on parle plus de... Enfin, ça tourne toujours autour du mercantile, en fait. C'est jamais... Enfin, on revient jamais à la source, j'ai l'impression.
Et puis il y a
Ouais,
quand même eu
exactement.
la barrière Covid, faut bien le dire, où ça a réveillé l'intérêt pour l'odeur à cause de l'anosmie.
Ouais. Bah, alors c'est un peu fou qu'il faille que tous ces gens perdent l'odorat pour qu'on se rende compte que ça nous manque un peu. Après, moi, j'ai, je sais pas, j'ai vécu ça un peu en deux temps, le Covid. J'ai vraiment eu une première phase où j'ai eu l'impression que ça y est, quoi, on allait enfin commencer tous à se préoccuper de notre nez, à s'intéresser à ce qu'on sent. Il y a eu un espèce d'âge d'or de la pandémie pour moi, en tout cas, à ma petite échelle, où j'avais des copines avec qui j'avais jamais discuté d'odeur, qui se mettaient à m'envoyer des articles avec des smileys en me disant « Regarde, on parle de parfum et tout ». Et donc, je me suis dit bah, « C'est super, s'il y a une prise de conscience, de toute façon, là, il va falloir changer beaucoup de choses dans le monde. » Et pour moi, c'est assez évident que l'odorat, sur un plan... pratique et même symbolique en fait dans ce que ça dit de notre connexion au monde, il me semblait que ça allait être voilà qu'on allait en ressortir en tout cas avec une conscience plus aiguë de ces deux narines et de tout ce qu'elles pouvaient pour nous. Et puis en fait, je sais pas vous comment vous voyez les choses, mais j'ai l'impression que c'est retombé assez vite en fait. Et
Complètement, ah oui. Ah
pendant deux
oui.
trois mois, il y a eu ce truc autour du nez, et puis là aujourd'hui. Les gens n'en parlent plus, quoi. Ça arrive qu'au hasard d'une conversation, on me raconte qu'on a été anosmique pendant 2 3 semaines, mais finalement, je n'ai pas l'impression que ça ait tant que ça changé le rapport que les gens ont avec leur nez. C'est très regrettable. Enfin, moi, j'y vois vraiment une occasion manquée.
Complètement, complètement.
Et bon, j'espère que la prochaine pandémie ne sera pas plus agressive et que les gens, par exemple, ceux qui ont perdu l'odorat, j'espère qu'ils se rendent compte qu'ils ont de la chance de l'avoir retrouvé, quoi. Moi, ça a été vraiment une grosse angoisse pour moi de perdre l'odorat. Je ne l'ai pas du tout perdu. Mais surtout parce que je crois que j'aurais beaucoup de mal à ne pas flipper de jamais le retrouver, quoi.
Bien sûr, bien
Ouais,
sûr.
moi, je suis passé par la phase de l'anosmie.
Ouais.
Et ouais, c'était vraiment un stress. Parce que je me disais, mais comment je vais faire?
Ah oui, c'est un
C'est
moment de
pour ça que...
panique.
Ah.
Une déconnexion, vraiment, quoi.
Complètement, complètement. J'en profite pour faire référence au livre de Françoise Marie Santoussi sur l'anosmie qu'elle a fait suite à son accident. Vraiment, c'est moi, ce livre m'a fait prendre conscience parce que moi, j'étais très éloigné. On a eu très peu de problèmes d'anosmie là où je suis. Pas d'histoire de Covid, que du blabla et personne n'est malade. Vraiment, ça a été assez étonnant en tout cas. Mais c'est ce qu'on a vécu ici, moi je suis au Mali. Aucune trace, quoi, tout simplement, du Covid. À part peut-être un ou deux malades. Vraiment, c'était vraiment très étonnant. Et ce livre de Françoise-Marie Santucci, ça m'a fait un peu prendre conscience d'abord de ce qu'ont vécu les gens, même si elle ne parle pas du Covid. C'est pas le sujet, c'est pas le Covid, c'est un accident. Mais se retrouver face à l'anosmie, c'est vraiment, je veux dire, c'est un réel handicap. Les gens se disent, ah ouais, bon, tu sens plus rien, ok. Non, c'est quand même assez dingue. Donc, et c'est dommage, je trouve que c'est dommage parce que vous êtes pris une claque qui s'appelle le Covid-19, vous avez perdu l'odorat, et puis finalement, au bout de 3 ans, on n'en parle plus. C'est un peu, je trouve ça vraiment étonnant, quoi. Bref.
Il y avait un tournant à amorcer. Après, je pense néanmoins qu'il y a quand même peut-être plus de réceptivité de manière générale à des initiatives. Bah, comme Nez en Herbe, par exemple, enfin, parler par exemple d'éveil olfactif aujourd'hui, il me semble que peut-être on rencontre un petit peu moins d'yeux écarquillés qu'il y a 4 ou 5 ans, peut-être. On garde quand même en mémoire que ça a été un sujet. Je pense qu'il y a quand même des réflexions qui ont été amorcées, et même si elles n'ont pas forcément modifié le rapport des gens à leur odorat au quotidien, ça a quand même créé un précédent qui fait que certaines choses sont un peu moins délirantes. Par exemple, moi, quand je dis que j'écris sur les odeurs, les gens sont peut-être un peu plus prêts à l'entendre aujourd'hui qu'il y a 5 ans.
Ouais, c'est on n'est plus dans le mirage. On n'est plus dans le mirage.
Ouais, on n'est plus dans l'illusion que c'est un truc un peu barré de s'intéresser aux odeurs. Et,
C'est vrai.
enfin, les gens ont peut-être quand même pris conscience que c'était une dimension du monde à part entière et qu'il n'y avait rien de farfelu à s'y intéresser activement, quoi.
Ouais, complètement. Tu parlais de Nez en Herbe. Donc, une association, je résume, tu vas tout corriger. Une association donc, qui œuvre pour l'éducation olfactive. Avant de rentrer un peu dans Nez en Herbe, je voudrais qu'on fasse un peu un état des lieux. Toi, tu as beaucoup plus les pieds dedans. Nous, on est très parfum, on n'est pas beaucoup olfaction, ce qui est complètement une erreur à la base. Mais faire un peu un état des lieux, comment tu vois un peu l'éducation olfactive en France 2023, d'ailleurs avant, après Covid, je suppose qu'il y a peut-être une petite différence. Comment tu vois ça?
Ben, je ne la vois pas surtout. C'est vrai que
Effectivement.
l'éducation, enfin, l'olfaction de manière générale, elle est quasiment absente hein, des programmes scolaires. Ça, c'est vraiment c'est le gros sujet, quoi. C'est qu'à aucun moment, les programmes scolaires n'intègrent de l'olfaction. Alors, on pourrait dire que la semaine du goût qui existe depuis une trentaine d'années existe et que sans le savoir, en fait, c'est la semaine de l'olfaction aussi, à
Ouais, c'est vrai.
80%. Donc voilà, l'olfaction en tant que telle, elle est pas abordée, quoi. Moi, je peux me baser sur mes souvenirs d'école, mais évidemment, je suis pas à l'école avec les enfants aujourd'hui. Mais moi, j'ai toujours été très, très sensible aux odeurs. Enfin, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. J'ai toujours un peu tout reniflé. J'ai pas le souvenir que ça ait déjà été fait en classe. Enfin, j'ai jamais été invitée à sentir quoi que ce soit en classe. Et j'ai pas non plus le souvenir d'avoir eu beaucoup de copines qui étaient un peu comme ça à renifler plein de trucs. Donc je pense que en fait dans la petite enfance aujourd'hui comme hier probablement de toute manière il y a une question d'environnement familial qui est déterminante, c'est-à-dire que soit on est dans une famille où les odeurs sont un sujet, soit pas. Soit on est dans une famille où les parents se parfument, où la maman fait la cuisine, où le papa fait la cuisine. Enfin, il y a des environnements qui sont plus ou moins riches olfactivement, et il y a des environnements où l'odorat est plus ou moins un sujet. Donc ça, je pense que c'est déjà quelque chose de très déterminant. Mais après, à l'école, c'est pas du tout un sujet qui est exploité. Or, il y a vraiment des bénéfices. Moi, j'ai découvert ça en fait en rédigeant un article justement pour Né sur l'éducation olfactive, et j'ai été ça m'a conforté dans des choses que j'avais l'impression de savoir de manière un peu intuitive, à savoir que probablement les gens qui sentent ont une vision du monde beaucoup plus riche et beaucoup plus réjouissante que ceux qui ne sentent pas. Et que, ça, oui, vraiment, ça donne une dimension supplémentaire au monde, en fait.
C'est une autre
Donc, je...
dimension. Dimension en plus, en fait.
bah, en fait, une dimension qui est là, c'est surtout que d'ignorer l'odorat, c'est surtout s'enlever, se priver d'une dimension. Parce qu'en réalité,
Ouais, exactement.
l'odorante, elle est là, qu'on le veuille ou non. Et qu'on en soit conscient ou non, elle interagit avec pas mal de choses à l'intérieur de nous, que ce soit la mémoire ou les émotions, comme on le sait. Mais de manière générale, la régulation des comportements, de l'appétit, il y a énormément de choses qui passent par l'odeur. Et ça, c'est à l'œuvre, en fait, qu'on en soit conscient ou pas. Donc finalement, l'éducation olfactive, c'est pas forcément de mettre en marche quelque chose qui serait à l'arrêt, c'est plutôt de faire remarquer qu'il y a quelque chose qui est en marche de toute manière. Et que bah, on peut le faire en conscience ou pas, en fait. Mais de toute manière, ça se fera, puisque tant qu'on respirera, et à condition de ne pas être anosmique, évidemment, on sent. Et j'aime beaucoup, je termine juste là-dessus, Roland Sallès, qui est donc le fondateur de l'association Nez en Herbe. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, je crois que vous en avez parlé avec Jeanne, mais il est ingénieur agronome. C'est lui qui a créé l'unité de neurobiologie de l'olfaction à l'INRA. Et
D'accord.
il y a, en fait, quand il parle de la mission de cette association Nez en Herbe qu'il a créée en 2017, il dit, notre objectif, c'est d'apprendre aux enfants qu'ils ont un nez et qu'ils peuvent s'en servir. Mais basta, quoi. C'est pas apprendre à faire son parfum, c'est pas faire des trucs hyper compliqués avec des pipettes de chimiste et des béchères, quoi. C'est juste dire, les gars, regardez, en fait, tout ce qu'il y a autour de vous a une odeur, mettez-le sous votre nez et juste, sachez que vous pouvez le faire, en fait. Et je pense que chez beaucoup d'enfants, et probablement chez tous, en fait, il suffit parfois d'une petite étincelle comme ça pour que la sauce prenne, en fait. Et ensuite, ça peut devenir vraiment un réflexe de sentir les choses qu'il y a autour de nous. Et je pense que tout commence là.
Effectivement.
Bah, justement, pour revenir sur Nez en Herbe, quel est ton rôle à toi exactement?
Alors moi, je suis tout simplement adhérente. Hein. J'ai rejoint l'association bah, suite à cet article que j'ai rédigé en 2021. Donc l'association existait déjà depuis 4 ans. J'ai été bah, très 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 saucée par tout ce que Roland Sallès m'a raconté à l'occasion de cette interview. Bah, j'ai deux filles, donc c'est aussi peut-être des questions que je me posais en tant que mère.
Ouais.
Mais donc moi, je suis simplement adhérente, et donc c'est-à-dire que je me rends de temps en temps disponible pour répondre à des demandes qui émanent d'établissements scolaires qui demandent à l'association d'intervenir dans des classes pour animer des ateliers d'éveil ou d'éducation olfactive. Donc moi, j'ai fait ça par exemple avec deux autres adhérentes. On s'est rendu dans une école maternelle de Vitry, là, il y a quelques mois, pour
Ah.
intervenir auprès d'enfants de moyenne section. Alors, c'est hyper fatigant, ça, il faut quand même le dire. C'est vraiment épuisant.
C'est dur, hein? Ouais, les enfants, c'est
Je veux
pas
dire, tellement
facile.
d'avoir à la maison, c'est vraiment autre chose d'avoir 24 enfants autour de soi, autour d'un atelier sur les odeurs. Donc déjà, force et honneur à toutes les maîtresses qui nous écoutent. Et ensuite, bah, c'est vraiment un endroit, en fait, où on peut se rendre compte, bah, de tout ce qu'on vient de dire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, de par leur environnement, ou peut-être, hein, des particularités aussi personnelles, ont déjà un intérêt assez prononcé pour les odeurs, ont des choses à dire quand on leur fait sentir quelque chose. Ils ont déjà engrangé plein de souvenirs qu'ils arrivent à ressortir assez facilement. On leur fait sentir, je sais pas, l'odeur du café, bah, ils parlent tout de suite de leur papa qui boit du café le matin. Donc il y a
Je ne
des
suis
enfants.
pas le père de tous. Je ne suis pas le père de tous. Je
Ah,
tiens à
bah ça,
préciser
ça reste à prouver.
ça.
Mais à côté de ça, voilà, il y a des enfants qui ont un petit peu moins cet intérêt-là. Mais franchement, globalement, je trouve que y a une réceptivité qui est assez remarquable. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on arrive dans des classes où les enfants n'étant pas stimulés par le nez dans l'apprentissage quotidien, on arrive avec une activité nouvelle qui déjà stimule une sorte de curiosité pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et on leur demande en fait d'exercer leur attention par un autre mode, quoi. Et alors, je ne sais pas si c'est ça qui explique le succès des ateliers ou simplement parce qu'ils se marrent bien, parce qu'on leur fait aussi sentir des crevettes pourries et qu'on leur fait manger des... Enfin, il y a quelque chose d'assez fun, en fait, dans ces ateliers. Mais je pense malgré tout qu'il y a probablement que le cerveau réagit, en fait, au fait d'être stimulé différemment. Pas par l'image, pas par le son... Pas par le corps qui se met en mouvement, mais par l'odeur, quoi. Et ça oblige en fait à une attention quand même, parce que pour sentir quelque chose, il faut être présent au monde.
Complètement.
Et il faut aussi être présent à soi-même, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très caractéristique de l'odorat et qui, à mon avis, dès les petites classes, peut vraiment avoir des bénéfices énormes.
Moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Moi, je vais en profiter pour raconter ma vie. Et
Vas-y.
plus jeune, j'étais animateur en centre de loisirs. Bah, on avait des petites initiatives comme ça, notamment avec un jeu qui s'appelait Kim, qui était autour des sens. Et en fait, enfin, moi, voir des initiatives comme Nez en Herbe, ben, enfin, moi, ça me touche et ça me fait plaisir, quoi. Surtout, enfin, voilà, on bosse avec les enfants, on leur fait prendre conscience d'eux-mêmes, de leur environnement. Et enfin, moi, je trouve ça super, quoi. Franchement, ben, franchement, félicitations. Et enfin, franchement, je trouve ça admirable ce que vous faites. Vraiment.
Ouais, complètement.
Ben, merci beaucoup et je transmettrai surtout à Roland et Fatia qui sont les fondateurs de l'association. Je voudrais juste dire quelque chose, c'est que tu parlais de ton expérience d'animateur et donc j'imagine qu'à cette époque-là, tu n'étais pas particulièrement expert
Ah,
en...
non, pas du tout.
Ouais. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui est peut-être plus important encore que tous les ateliers qu'on peut faire, qui sont finalement, c'est génial, hein, mais sur une journée, on va avoir touché 100 enfants, c'est très bien. Mais à mon avis, le vrai boulot, il se joue plus haut, en fait, il se joue au niveau des formateurs eux-mêmes, voire au niveau des académies et de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les activités qu'on propose, je pourrais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait, par exemple, en moyenne section, mais c'est des activités qui sont simplissimes, en fait. Elles peuvent demander un peu d'organisation, parfois il faut un peu de matos, mais c'est des activités qui sont extrêmement faciles à reproduire. Et les maîtresses, d'ailleurs, sont les premières étonnées de voir que finalement, c'est des choses qu'elles auraient pu proposer elles-mêmes. Et à mon avis, le vrai enjeu aujourd'hui, ce serait de pouvoir intégrer l'olfaction au programme scolaire, mais pas par le biais de quelques bénévoles comme moi et la trentaine d'adhérents de Nez en Herbe, parce que nous, on a un champ d'action qui est extrêmement limité. Ce serait plutôt de pouvoir montrer, ou même de pouvoir donner l'idée, en fait. J'ai une copine qui a un stit à Marseille, à qui je racontais ce que je faisais avec Nez en Herbe, et qui me disait, mais c'est génial, en fait, autant que je le fasse avec mes classes. Elle a des grandes sections, et elle me disait, toutes les semaines, on a un mot. À chaque semaine, début de semaine, on met un mot à l'entrée de la classe avec un objet, enfin, objet et mot correspondant. Donc, c'est en fait une espèce de thématique comme ça qui est filée pendant la semaine. Et elle me disait, mais en fait, je devrais carrément mettre un objet odorant aussi. Et puis, bah, pendant une semaine, les enfants, on ferait des activités où ils seraient amenés à en parler ou juste à remarquer, par exemple, qu'il y a, je sais pas, n'importe quoi, une clémentine qui est posée à l'entrée de la classe. On la gratte, on la sent, on en parle. Et en fait, il y aurait des choses extrêmement simples à faire pour que l'odorat rentre dans la vie des élèves, en fait. On n'est pas obligé, encore une fois, de faire des trucs hyper compliqués. On n'est pas obligé de faire appel à des experts. Moi, quand je vais en école maternelle pour animer des ateliers, c'est pas en qualité d'experte, quoi. À la rigueur, c'est en qualité de maman capable de supporter 24 enfants pendant 2 heures. Mais c'est pas... Je veux dire, mon expertise par parfum, par exemple, n'a quasiment aucun intérêt.
C'est vrai.
Donc c'est ultra accessible en fait. Et c'est ça, je pense, le vrai message à faire passer aujourd'hui, c'est que il faut vraiment pas grand-chose en fait pour montrer aux enfants qu'ils ont un nez et qu'ils peuvent s'en servir pour reprendre la formule de nez en herbe.
Ouais, c'est vrai. Et puis, tellement peu coûteux, ça demande aucune logistique. Souvent, on fait des sorties. Je veux dire, c'est sans intérêt de faire une sortie, mais ça demande une logistique et des coûts et un encadrement, etc. Alors que là, comme tu dis, il suffit de poser une clémentine. Je veux dire, c'est pas. Je pense que c'est accessible à beaucoup de gens qui ont 5 doigts au bout de la main, quoi. Tu vois.
Ouais.
Tu parlais donc de l'éducation nationale. Est-ce que les écoles qui pour l'instant ont participé ont un profil un peu spécial, ou bien tu sens que ça c'est un peu mainstream, ça rentre comme il faut dans tout type d'école pour l'instant?
Alors, je pense que pour des questions vraiment purement déjà budgétaires, parce que c'est des ateliers qui sont payants, même s'ils ne coûtent pas une fortune, ça reste... pour l'école, donc il y a déjà sûrement cette chose à prendre en compte. Donc ça, sûrement que ça joue, mais en fait, les écoles dans lesquelles on est intervenu, c'est des écoles publiques, tout ce qui est de plus public, quoi. Et je pense que, de mon expérience, en tout cas, j'ai jamais rencontré un instituteur pas séduit, a priori, par l'idée d'un atelier olfactif dans sa classe. Donc, à mon avis, c'est simplement que les directeurs d'établissement ou les instituteurs n'ont pas l'idée, en fait. C'est pas qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils sont réfractaires, ou je pense que c'est simplement qu'ils n'ont pas l'idée. Et donc, à mon avis, tout est en place pour que ça se répande, quoi. Il y a aucune raison qu'un établissement n'ait pas envie d'accueillir ce type d'atelier dans ses classes.
D'accord, ouais. Effectivement. C'est vrai que c'est tellement. Des fois, c'est une simple idée, hein, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Et puis, c'est pas. Comme tu dis, c'est tellement effacé dans le monde, dans la vie quotidienne, que bah, pour en avoir l'idée, faut être quelque part face au truc, dans une situation un peu spécifique. Et malheureusement, c'est bon, c'est complètement absent des programmes, quoi. Toi, tu penses que ça peut propulser, ou bien vous avez peut-être même d'un côté ou de l'autre, du côté de nez en herbe ou n'importe quel côté, ça produit des propositions un petit peu par rapport à l'éducation nationale, ça propulse quelque chose?
Alors oui, je crois que Jeanne Doré a évoqué dans son épisode un projet de livre qu'on a, qui consistera justement à compiler déjà d'une part des idées d'atelier faciles à mettre en œuvre pour tout type de personnes désireuses de travailler avec l'odorat, donc que ce soit des éducateurs, mais aussi des parents ou pourquoi pas juste des curieux, quoi. Et d'autre part, à essayer de mettre en forme tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les bénéfices de l'éveil olfactif. Et des contenus en fait qui permettent de donner des arguments concrets pour défendre l'éveil olfactif, parce que je pense que quand on parle d'éveil olfactif, il y a plein de gens qui se disent que ça sert à rien, puisque de toute manière l'odorat ne sert à rien, donc à quoi bon l'éveiller? Mais en fait, il y a vraiment des arguments solides, scientifiques, qui vont dans le sens d'un réel bénéfice en fait à éveiller l'odorat des jeunes enfants, par exemple. Même aux très jeunes âges de la vie, entre 0 et 3 ans, quand le cerveau est au maximum de sa plasticité, on sait aujourd'hui qu'un environnement qui est sensoriellement riche et diversifié favorise un épanouissement, le bon épanouissement du cerveau, en fait. Enfin, c'est vraiment ça va chercher là-dedans aussi, quoi. C'est pas simplement d'être capable de distinguer un jasmin sans bac d'un jasmin de grâce, en fait, les gens s'imaginent que c'est forcément des trucs un peu compliqués, un peu inutiles, mais en fait, en réalité, ça a des répercussions très concrètes, notamment donc sur le développement cérébral dans les jeunes années, sur le développement aussi des préférences alimentaires. En fait, un nez qui est un peu éveillé est beaucoup plus capable de s'intéresser à ce qu'il y a dans son assiette.
C'est vrai.
Et l'alimentation, elle a des répercussions directes sur la santé, ça, c'est une évidence. Donc voilà, et il y a aussi quelque chose, alors ça, c'est peut-être un plus vrai, disons, à partir de la maternelle. Mais l'odorat, ça, enfin, travailler son odorat, travailler avec son odorat, ça permet de développer son attention et sa mémoire. Parce que les odeurs, en fait, c'est des signaux faibles, hein, dans notre monde d'aujourd'hui qui est très, très visuel. Il faut faire un petit pas de côté, quoi, dans sa manière d'être au monde pour pouvoir vraiment exercer son odorat. Et ça a vraiment des répercussions directes aussi sur la manière dont on sert de notre cerveau, quoi, et notamment la manière dont on sollicite notre attention et notre mémoire. Et ça a des répercussions aujourd'hui qui sont hyper intéressantes. Quand on pense que les élèves, dès la primaire ou le collège, ils sont complètement. Enfin, je ne vais pas généraliser, mais il y a quand même un vrai sujet avec les écrans. On sait que l'attention des jeunes, elle est catastrophique aujourd'hui, ils ont beaucoup de difficultés à se concentrer longtemps. Et donc de solliciter l'odorat, ça permet aussi de solliciter leur attention d'une manière différente. Et ça peut vraiment apporter des bénéfices très très concrets. Et là-dessus, je voudrais parler une initiative qui est celle de Rach Gurdon, que vous connaissez peut-être, qui est membre
Ouais.
du collectif Né aussi, qui est directeur de
Mmh.
recherche neurosciences au CNRS. Et lui, pour ce fameux article pour Né, là, il m'avait parlé d'un atelier olfactif qu'il avait animé à l'école alsacienne de Paris, avec des élèves de quatrième. Et en fait, ça lui a permis de mettre en place avec quatre professeurs dans ce collège, donc un prof de SVT, d'histoire géo, de français et de physique chimie, tout un programme sur l'année, en fait, autour de l'odeur et en l'occurrence des épices. Donc il avait animé un premier atelier sur 2 heures où les élèves avaient été amenés à interagir autour des épices et des aromates. Et à partir de là, donc les quatre profs, chacun à leur manière, avait tissé un petit programme autour de l'odorat. Donc, il y avait l'histoire géo qui s'était intéressée à l'origine des épices et à l'importance qu'elles ont eue dans la découverte du monde par les hommes. La SVT qui s'était intéressée au fonctionnement de l'olfaction dans le cerveau. La physique chimie qui s'était intéressée plus à la manière dont les atomes s'assemblent en molécules odorantes. Et puis le français, évidemment, avec tout un corpus de textes autour du parfum, des odeurs, de la mémoire, etc. Donc c'est pour dire qu'on peut aussi faire rentrer l'odorat dans les programmes scolaires, pas simplement sur le plan de sentir des choses. Ça peut
Bien sûr.
simplement amener l'odorat, en fait, en tant que sujet, dans le champ d'intérêt des professeurs, par exemple. Donc lui, Raj Gardan, il a fait cet atelier-là. C'était censé être un pilote pour une sorte de proposition qu'il voulait soumettre ensuite à l'éducation nationale pour que justement d'autres collèges puissent s'emparer de l'idée et la mettre en œuvre dans leur établissement. Je ne sais pas exactement où ça en est aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même assez difficile de faire bouger les programmes de l'éducation nationale. Mais malgré tout, voilà, moi je crois beaucoup à la force de ces exemples, en fait, même si ça se fait par bouche à oreille, de savoir que des professeurs ou des instituteurs ont travaillé sur l'odorat et ont eu pendant plusieurs mois une attention constante des élèves sur
Bien
des
sûr.
sujets un peu originaux qui ont permis aussi à chacun de s'exprimer parfois sur eux-mêmes, hein, parce que par exemple le sujet des épices, il est hyper intéressant parce que tout le monde en a chez soi, donc ça permet aussi aux élèves de parler d'eux, d'évoquer les différentes cultures de chacun, les différentes cuisines qu'on fait à la maison. Enfin, il y a tellement de choses en fait qu'on peut faire autour des odeurs.
Sûr. Tu parlais du livre justement qui est dont Jeanne Doré parlait, si tu peux nous en dire plus.
Ben, on a eu cette idée en fait, en voyant les activités proposées par Né en Herbe. Moi, très vite, ça m'a encore une fois, ça m'a frappé que le vrai travail à mener n'était pas tant de faire des ateliers dans des classes que d'éveiller tous les adultes, qu'ils soient parents ou enseignants, au bénéfice de l'éveil olfactif et de leur donner vraiment des outils pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc on en avait discuté avec Jeanne et en fait moi en discutant un peu aussi de manière comme ça spontanée avec des parfumeurs et notamment des parfumeuses mamans en leur demandant si elles ont déjà animé des ateliers dans les écoles de leurs enfants ou en leur demandant comment elles font à la maison ou pas pour stimuler l'odorat de leurs enfants, j'ai souvent eu des discussions assez intéressantes, assez enrichissantes et qui toujours en fait m'amener à la même conclusion, c'est-à-dire que en fait c'est rien de très compliqué quoi. Et il n'y a pas besoin de travailler dans une grande maison de parfum et d'être un grand parfumeur pour pouvoir prendre ses petits pieds, prendre ses petites mains, aller dans l'école de ses enfants et puis aller animer un atelier de 2 heures qui va faire du bien à tout le monde, que la maîtresse va trop kiffer, que les enfants vont trop kiffer et qui va donner un peu à chacun l'envie de recommencer l'expérience.
Ça, c'est
Donc,
sûr.
on avait avec Jeanne cette impression commune finalement que les gens qu'on côtoie, nous, dans notre industrie, souvent sur un niveau personnel, se sont déjà impliqués dans ce genre d'atelier. Né en Herbe montrait aussi que ben voilà, quand on réunit des scientifiques, des artistes, des journalistes, des gens qui ont vraiment une connexion très forte à l'odorat et qu'on leur demande de réfléchir à des ateliers pour des enfants, ce qu'ils mettent en œuvre, ce n'est pas des trucs super compliqués en fait. Donc on s'est
Ah oui.
dit, en fait, il faudrait juste pouvoir mettre ça dans un bouquin et faire en sorte que n'importe qui puisse le faire en fait, parce que c'est juste qu'il faut avoir l'idée
Un guide.
et un guide quoi, exactement. Et ensuite il y avait aussi donc cette idée qu'il fallait aussi pouvoir compiler des connaissances scientifiques et des retours d'expérience pour pouvoir démontrer en fait les bienfaits de l'éveil olfactif et ne pas avoir à chaque fois à reprendre le travail à zéro pour expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est utile de le faire, etc.
C'est vrai.
Donc on s'est dit, voilà, il nous faudrait un livre qui serait mi-théorique, mi-pratique, avec des idées d'atelier, très, encore une fois, très pratiques, et puis de l'autre, des interviews, des discussions, des textes rédigés par des gens, pour le coup, experts, qui pourraient démontrer comment, du point de vue des neurosciences, des sciences de l'éducation, eh ben, on a des bénéfices très concrets, en fait, à mettre en œuvre cet éveil olfactif à la maison ou à l'école, en fait, parce que ça se joue aussi à la maison.
Ouais.
Donc c'est un projet qui est encore au stade vraiment de projet, puisque rien n'a été lancé, mais on a bon espoir qu'en unissant un peu la force de frappe éditoriale du collectif Né et la somme des talents que réunit Né en Herbe, on devrait pouvoir réussir à faire quelque chose, ben on l'espère, qui sera utile et puis peut-être même qui pourra nous aider à porter ce message-là auprès d'instances comme l'Éducation nationale. Ça,
C'est ça.
ce serait vraiment
Ça.
génial.
C'est quand même incroyable que qu'il n'y ait rien, quoi. C'est-à-dire, là, on est en train de parler de livres, donc à but éducatif. Je veux dire, moi, je me suis souvent promené dans des librairies. Tu sais, quand tu commences à connaître un peu le parfum et que tu vas approfondir, tu cherches beaucoup de choses.
Oui.
Il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a rien. En matière d'éducation, il n'y a rien. Je connais rien. J'ai jamais vu un livre. Après, évidemment, ça peut me passer sous le nez, mais des livres qui vont proposer des ateliers ou mettre. Ouais, c'est ça, avertir, en fait. Tu sais, je vais te dire un truc. Je parlais du livre de Françoise-Marie Santucci. Il y a cette part dedans qui m'a beaucoup intéressé. Comme elle se retrouve face à l'anosmie, eh ben, elle va expliquer des choses. Et c'est des trucs qu'on ne trouve pas, finalement.
Non, c'est ouf.
Ouais.
Après, je pense que, en fait, d'une certaine manière, l'éveil olfactif, c'est presque trop simple, d'une certaine manière, pour qu'il y ait des livres sur le sujet. Enfin, je
Peut-être.
m'explique. C'est simplement que, en fait, la base de tout ça, et je crois qu'on n'aurait même pas besoin d'avoir la discussion qu'on est en train d'avoir, si simplement, dans toutes les maisons, les enfants étaient encouragés à se servir de leur nez, ou même, j'irais même plus loin, pas découragés.
Oui.
Parce que finalement, c'est ça aussi le sujet, c'est que ben, pour reprendre un exemple qui m'a été donné par un parfumeur qui s'appelle Pierre Bénard, que j'avais aussi interviewé pour cet article, il me racontait, lui, qu'il était intervenu, je ne sais plus si c'était dans une école ou lors d'une conférence, et une maman était venue le trouver pour lui dire que sa fille, elle avait la fâcheuse habitude de renifler toujours ce qu'il y avait dans son assiette, et que ben, ça ne se faisait pas, quoi, qu'elle ne l'avait pas éduquée comme ça. Et en fait, ça montre à quel point, parce que c'est vrai hein, qu'un enfant qui, je sais pas, qui renifle son assiette, je pense qu'il y a beaucoup de familles où on lui demande c'est quoi le problème, tu trouves que c'est pas bon, c'est mal poli, alors que c'est quelque chose de on ne peut plus normal, et en l'occurrence, en plus d'assez utile, parce que ça va aider à mettre en place la digestion, ça va aider à la salivation. En fait, en vrai, c'est tout à fait une bonne idée de renifler son assiette, c'est ça que je veux dire. Et je crois que dans beaucoup de familles, l'odorat est non seulement pas un sujet, mais en plus peut être faire l'objet de suspicion, quoi, en gros. Et qu'un
Ouais.
enfant qui renifle trop de choses, on peut rapidement un peu le remettre à sa place. Dans l'idéal, ce serait ça qu'il faudrait pouvoir désamorcer. C'est cette tentation qu'on a de perpétuer la vision d'un odorat qui a un sens animal, inférieur. Indigne des êtres tellement évolués que nous sommes. Et là, dans ce cas-là, on n'aurait même pas besoin en fait d'éveil olfactif, je pense. Le
C'est vrai.
problème, c'est qu'il faut pouvoir compenser tout ce qui est bah, tout ce qui est détruit par l'éducation à la maison, ou tout ce qui n'est pas stimulé et qui du coup ne s'éveille pas chez les enfants.
Vrai. C'est vrai. Moi, j'allais en parler. Hein. Le sentir l'assiette dans beaucoup de familles, c'est un problème. Hein. Non, qu'est-ce que tu fais? C'est mal poli. Je l'ai vu. Moi, je l'ai vu combien de fois? Je ne sais même pas compté. Hein.
En tout
Mon
cas, c'est bien qu'on traite du sujet parce que ça met en avant le côté bah, presque scandaleux enfin, on est bridé, quoi. On se
Oui,
rend
c'est ça.
compte que enfin, ça commence à la maison, c'est ça qui est incroyable. Ça commence
Complètement,
à la
ouais.
maison, ça commence tout petit.
Ça commence même à la clinique. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai eu mes filles. Quand on est à la maternité, il y a des tests hein, qui permettent de vérifier que l'enfant voit bien, que l'enfant entend bien. Et ça, c'est fait bah, retour à la maison. Dans les 3 premiers jours de l'enfant, il est soumis à des tests ultra simples hein, qui permettent de vérifier qu'il voit correctement ou pas et qu'il entend correctement ou pas. L'odorat, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Alors, bon, la vérité, c'est aussi que je ne sais pas comment de tels tests pourraient exister. Hein, donc, je ne veux pas dire que la solution est simple et que voilà. Mais le fait est que l'odorat est très peu pris en considération par la médecine, alors que bah, ne serait-ce que pour pouvoir diagnostiquer d'autres maladies. En fait, parfois, l'anosmie, par exemple, congénitale, elle peut être marqueur d'autres maladies. Donc, je veux dire, ça vaut vraiment le coup qu'on s'y penche. Et moi, je suis hallucinée. La semaine dernière, j'ai rencontré un gars qui me racontait qu'une de ses meilleures amies était anosmique congénitale. Elle s'en est rendue compte à l'âge de 17 ans. Enfin, c'est quand même hallucinant. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que, mais en fait, pour ce qui est de la surdité et de la cécité, par exemple, c'est des trucs qui sont diagnostiqués, mais dans les premières heures de la vie d'une personne, quoi. Donc il y a vraiment une espèce de scandale, comme tu disais.
Non, non.
Ah
17 ans, on est
non.
au-delà du scandale. 17
Ah
ans.
ouais,
Est-ce
non,
que tu
c'est
te rends compte que
incroyable.
pendant 17 ans, la personne va chez le médecin, on n'en a rien à foutre. C'est un
Après, je
truc
ne
de
sais pas
malade.
comment en fait on pourrait diagnostiquer avant, par exemple, avant l'apparition de la parole, comment est-ce qu'on pourrait diagnostiquer une anosmie chez les enfants? Ça, je ne
Oui,
sais pas. Il y aura sûrement
techniquement, on
des
ne sait
protocoles à
pas.
mettre en place. À mon avis, ça peut se réfléchir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un désintérêt, même au niveau du corps médical, qui est très criant, parce que On ne peut pas s'étonner du coup qu'à la maison, les parents se reprochent à leurs enfants de sentir leur assiette. L'odorat a un sens vraiment encore aujourd'hui complètement négligé. Même si les choses bougent, même si depuis une vingtaine d'années, il y a quand même plutôt un mouvement qui va dans l'autre sens, hein, depuis la découverte notamment des gènes qui codent les récepteurs olfactifs. Là, c'est le Nobel de 2004 de deux chercheurs américains qui ont été donc récompensés pour cette découverte-là. Il y a quand même dans la communauté scientifique un vrai engouement qui s'est créé. Le Covid en a remis une couche, hein, ça, et même les scientifiques le disent aujourd'hui, il y a quand même plutôt un mouvement, disons, positif, mais le chemin à accomplir, il est, enfin, on ne voit même pas l'horizon, quoi.
C'est vierge,
C'est...
c'est simplement vierge. C'est-à-dire, tu viens, il n'y a rien, tout est à faire.
Tout est à faire.
Tout est à faire.
Tout
Moi,
est
je
à
suis
faire, mais
vraiment scandalisé.
à la fois c'est d'une simplicité immense, quoi. C'est pas comme, je sais pas, un cours d'éducation musicale où il faut avoir du matos, il faut avoir peut-être quelques connaissances, etc. Franchement, l'éveil olfactif,
Bah,
c'est
juste à la
vraiment.
cantine, tu l'as dit, juste à la cantine.
À la
Voilà.
cantine, au marché,
Pas compliqué, tu vois.
enfin, au parc.
La colle, je veux dire, c'est tellement simple.
Oui, sniffer la colle, les enfants, voyons. Mais
Non,
ceci dit, y a une petite animation qu'on fait avec Né en Herbe qui est vraiment d'une simplicité ahurissante. Donc, je vous la partage parce que vraiment n'importe qui peut la faire. C'est tout simplement d'inviter les enfants à se boucher le nez avec avec les doigts, à mettre quelque chose dans leur bouche et à constater qu'ils ne sentent rien, qu'il n'y a pas de goût en fait, ou alors très peu. Ensuite, ils ouvrent les narines et ils se rendent compte que ah, bah là, il y a le goût. Ça permet, quand on n'a pas encore eu la chance d'avoir le nez super bouché, et de se rendre compte du rôle que l'odorat, joue dans le goût, ça permet déjà de prendre conscience que sans le nez, bah, il y a quand même une bonne partie du plaisir de la table et de manger qui disparaît. Et donc ça, c'est
Complètement.
une expérience qui demande vraiment, en termes d'investissement de temps et d'argent, à peu près rien. Il faut juste penser à le faire et ça peut être, rigolo de le faire à la maison, avec ses propres enfants, avec les enfants des autres, ou même avec d'autres adultes, hein.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est d'une incroyable simplicité, hein.
Je pense que c'est très important que d'en parler, que vous avez, même si vous parlez plutôt de parfum, vous avez un rôle à jouer parce que finalement, le parfum, c'est juste une forme d'odeur parmi d'autres, même si elle est extrêmement sophistiquée. Et pour que demain, on puisse avoir des consommateurs éclairés, qui ne soient pas juste des moutons matraqués de pub, bah, il faut commencer par les inciter en fait, à faire confiance à leur nez, quoi. Et ça, c'est un des rôles aussi de l'éveil olfactif, c'est juste de faire sauter en fait cette barrière artificielle entre les sachants et les ignorants en matière d'odorat. Enfin, voilà, moi, c'est une image qu'on me renvoie souvent quand je dis que j'écris sur les odeurs et le parfum. Donc les gens, il y en a déjà qui me disent, oh là là, merde, j'ai pas mis de déo ce matin, j'espère que tu trouves pas que je pue. Donc déjà, en fait, non, pas du tout. Et ensuite, les gens me parlent d'odeurs quand ils le font avec énormément de pincettes, en me disant je suis désolée, j'ai pas les bons mots. Ah oui, mais parce que bah, toi, tu dois sentir tellement de trucs. Moi, mon nez, il est pourri. Ou alors à l'inverse, ils ont des fausses croyances sur leur nez qui sentiraient hyper bien. Enfin, il y a beaucoup en fait de fantasmes sur ce que c'est qu'un odorat supposément expert comme le mien ou celui d'un parfumeur. Et de l'autre, le leur qui serait un peu bizarre, soit défaillant, soit super performant, mais dans tous les cas, un peu bizarre. Et ça, je pense que c'est un truc vraiment hyper important, quoi. Si on veut que l'industrie du parfum aussi puisse commencer à produire des choses vraiment intéressantes qui trouveraient une résonance chez des consommateurs bah, capables de distinguer en fait un bon parfum d'une gousse supplémentaire, et ben, je pense qu'il faut que chacun... apprennent en fait à faire confiance à son nez et donc l'intègre dans sa vie de tous les jours, quoi. Même en dehors du parfum, il n'y a pas que chez Sephora qu'on peut servir de son nez. Et quand on se rend compte que ben voilà, on est capable de prendre du plaisir à plein d'autres choses que le parfum, que les messages odorants de la vie, quoi, sont partout autour de nous, et ben ça nous rend sûrement beaucoup plus capable d'apprécier les belles choses que sont parfois le parfum, enfin que sont parfois les parfums, parce que c'est pas toujours le cas.
Effectivement. Mais non, tu disais nous, on est surtout orienté parfum, évidemment. On parle de parfum. Mais si nous, on s'intéresse à tout ça, c'est parce que c'est un avantage, tout simplement, pour évaluer, entre guillemets, ce qu'est un bon parfum. Ou ce qu'est un parfum, tout simplement. C'est même pas question d'un bon parfum. L'éducation olfactive, c'est primordial. dans tout,
Ouais.
comme tu as dit, je veux dire, c'est important dans l'équilibre de un, de ta vie, et de deux, si tu aimes le parfum, bah, c'est beaucoup mieux d'avoir une éducation. Nous, on est des derniers cassos, c'est-à-dire on est comme tout le monde. On est là, il faut qu'on s'éduque. On a 45 ans, 46 ans, 47 ans derrière nous de non-éducation olfactive.
Bah
Donc,
après,
forcément.
l'intérêt pour le parfum, quand même, ça indique quand même qu'il y a un intérêt pour la chose odorante, quand même.
Bien sûr, bien sûr,
Après,
bien
est-ce que
sûr.
vous les versez effectivement en dehors des parfumeries? Ça, c'est une autre question. Mais enfin, je trouve que vous partez pas non plus de zéro, quoi. S'il y a déjà un intérêt pour le parfum, c'est plutôt pas mal.
Non, je parle vraiment d'éducation olfactive où on part de zéro. C'est surtout ça, quoi.
Ouais.
On n'a aucune éducation olfactive, tout simplement. On s'est éduqué nous-mêmes. Le Zen, on en a parlé combien de fois? Lui, c'est en aimant le parfum qu'il s'est dirigé vers les odeurs. Et moi, c'est en aimant le parfum que je me suis dirigé vers les matières, qui sont des odeurs. Donc, c'est bon, bah, tant mieux, je veux dire, ça nous a tirés, et puis voilà, quoi.
Et ou sinon, enfin, on se rend pas compte, c'est plus tard en développant mon goût pour le parfum, c'est là que j'ai des odeurs qui sont revenues enfin, de mon enfance. Le cuir avec mon père qui a travaillé dans le cuir, ou sinon ce fameux savon à la lavande qu'il y avait à l'école primaire. Enfin bon, c'est revenu, je me suis rappelé, je n'avais pas conscience en fait.
Ça,
Ben
c'est
c'est
ça, très
super
intéressant ton exemple parce que ça montre vraiment ça, le fait que l'odorat, en fait, qu'on en ait conscience ou pas, qu'on l'éduque ou pas, qu'on en ait quelque chose à foutre ou pas, en fait, il marche. Il y a beaucoup de personnes qui me font part de ça, des expériences tardives, par exemple de Madeleine de Proust, que ce soit de savon à la lavande, de cuir, de n'importe quoi. On a tous, en fait, nos histoires avec des odeurs. Moi, c'est ça que je trouve fascinant et que j'ai toujours eu un peu envie d'explorer avec Flair, en fait, dès le départ, quoi. C'est que l'odorat, ça nous ramène, en fait, sans cesse à la profondeur de notre vécu, à notre identité, à d'où on vient. Et je trouve que c'est merveilleux de se dire qu'en fait, notre nez, même quand on n'en a jamais vraiment eu quelque chose à faire, en fait, il a toujours été là, quoi, fidèle au poste, et qu'il a fait son petit travail en souterrain. Si on fait de la lumière là-dessus un jour, bah, tant mieux pour nous, ça enrichit considérablement notre vie, je pense. Et même si vous n'avez jamais fait gaffe à votre nez, bah, peut-être sur votre lit de mort, vous allez ressentir une odeur de votre enfance. Et vous allez quand même être transporté. Enfin, il n'est pas rancunier le nez, quoi. Il continue de faire son taf quand on
Complètement.
se désintéresse de lui. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me, enfin, franchement, me
Bien
bouleverse.
sûr, hein, c'est vraiment un sens tellement complet, tellement étonnant.
Là, récemment, j'observais mes enfants et ils regardaient un manga. Et en fait, le s'appelle Demon Slayer. Et le personnage principal s'appelle Tenjiro. Et justement, lui, il a une capacité. Enfin, il a un odorat surdéveloppé. Et en fait, ça lui sauve la vie. Et en fait, c'est marrant de voir que, enfin, ils vont faire des jeux, ils vont se prendre pour ce personnage-là. Ça va leur permettre ils
De
vont
se
se prendre la tête
concentrer.
sur les odeurs autour d'eux, en fait. Ouais, voilà.
Mais
Ouais.
c'est génial, ça montre aussi le rôle que peut avoir la culture populaire, en fait, là-dedans. Il y a une
Exactement.
représentation, en fait, des odeurs. Ou alors, soit les gens s'en foutent, soit les gens sont parfumeurs, mais il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Mais je pense que là aussi, il y a vraiment quelque chose qui doit se jouer dans la culture, en fait. Il faut que les odeurs soient un sujet comme un autre. Il faut que le fait d'avoir un bon odorat soit un sujet comme un autre, même si. Probablement qu'on a tous un odorat bien meilleur
Bien
que ce qu'on
sûr.
imagine. Ouais, il y a un sujet de représentation, ouais.
Complètement, complètement. Moi, ce qui me fait réagir dans ce manga, c'est, bon, évidemment, je n'ai jamais vu, mais donc tu as un odorat surdéveloppé, soi-disant, donc tu es un super-héros, quoi. Donc les parfumeurs, et ça rejoint en fait la légende des parfumeurs qui ont un don.
Ouais. Bah là-dessus, si je ne sais pas s'il est utile de le rappeler, mais non, en fait, ils n'ont pas de don, ils ont juste bossé comme des fous. Et justement, eux, ils ont poussé cette éducation du nez à un niveau très, très, très poussé. Mais je veux dire, même Jean-Claude Elena, moi, je l'ai interviewé quand il était chez Hermès, il me disait que lui, il continuait à s'exercer tous les jours, tous les matins, il sentait au moins deux, trois matières pour garder sa mémoire. Comment dire, alerte, quoi. Enfin, pour garder cette agilité, en fait, à manipuler les odeurs, à savoir les reconnaître, à savoir les nommer, etc. Après, on n'ambitionne pas tous de devenir Jean-Claude Elena, heureusement. Et sans aller jusque-là, ça montre quand même tout simplement que c'est simplement un pli à prendre, quoi. C'est une sorte de gymnastique. Mais les parfumeurs ne sont pas nés avec un nez,
Mmh.
justement, différent du nôtre, en fait. On est tous sensiblement égaux en matière d'odorat. C'est quand même ouf. Il n'y a pas de meilleur nez que d'autres à
On
la
a le même
naissance.
nombre de narines, c'est incroyable.
On a le même nombre de narines, non, mais oui, voilà, mais de la même manière que des culturistes, a priori, bébés, ça ne se voyait pas qu'ils allaient être
C'est
ce
vrai,
qu'ils deviennent.
complètement.
Ouais, effectivement.
Voilà, donc faut juste y aller, quoi.
Effectivement, il faut se donner la peine, il faut se donner du mal. Et je dirais particulièrement pour ceux qui ont des enfants, parce que on a vécu ce que je vais appeler une erreur, c'est-à-dire on n'a pas été éduqué olfactivement, mais évidemment, il faut prendre le contexte en considération dans ce que je dis. Et je pense que c'est le meilleur moment de changer, c'est maintenant, comme toujours, quoi.
Complètement,
Ça.
ouais. Nos enfants qui ont connu la pandémie ou qui sont nés dedans, c'est cool quand même de leur laisser au moins ça de positif, que on aurait pris conscience de l'importance de l'odorat et de l'importance d'en faire un sujet comme un autre,
Exactement,
quoi.
exactement. Très bien, Sarah.
C'était super intéressant de discuter avec
Bah,
vous.
c'était super intéressant de discuter avec toi. Tout simplement.
Moi, personnellement, je suis très content. J'espère que bah, cet épisode il va servir pour beaucoup à prendre conscience de l'importance de la place de l'olfaction dans nos
Ouais.
vies. Franchement, et enfin, merci beaucoup pour ta contribution, en
Ouais.
tout cas.
Et puis,
Bah, de rien,
il me
merci.
semble qu'il y a moyen de contribuer financièrement à Nez en Herbe. Jeanne Doré parler de ça. Je sais pas si tu connais les rouages ou si on
Ouais,
peut
tout
mettre
à
un lien, on
fait.
va mettre un lien dans l'article lié à l'épisode, tout simplement. Ceux qui ont envie de.
Complètement. Bah, déjà, il y a la simple adhésion,
Voilà.
déjà, c'est génial. Simplement être adhérent, ça peut déjà faire beaucoup. Et puis, je pense au-delà de Nez en Herbe, simplement d'en parler autour de soi, d'aller animer des ateliers dans les écoles de vos enfants. Même si vous n'êtes pas expert, en fait, il n'y a pas besoin d'être expert pour faire ces ateliers-là.
Il n'y a pas besoin d'être né en herbe, tout simplement. L'initiative individuelle
Ouais,
est
exactement.
forcément la bienvenue, quoi.
Ouais, exactement, ouais, exactement. Mais c'est sûr que Nez en Herbe prend toutes les contributions et qu'elles seront les
Ouais,
bienvenues.
très bien. On encourage tout le monde. Puis voilà, Sarah, vraiment un grand, 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 grand merci de nous avoir honoré de ta visite.
Mais merci à vous, les gars, c'était
Ça me
top.
fait très, très plaisir. Et puis, on redirige aussi les gens vers ce livre. Il est traduit par Essence et Alchimie, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
De Mandy Haftol, qui est vraiment une très très belle référence pour tous les passionnés de matière, de parfum, et d'avoir aussi une vision qui ne soit pas grasso-centrée ou trop hexagonale. Là, on a vraiment une autre façon de voir les choses qui est très très intéressante. Donc, j'encourage à acheter ce livre, à le lire. Voilà.
Voilà, qui paraît le 22 juin aux éditions Nez, qui est déjà en vente
Sur le site.
sur le site. Ouais.
Ouais. Parfait. Sarah, un grand
Merci
merci.
beaucoup.
Ouais. Et
Et
puis
à bientôt, j'espère.
à très bientôt, très très bientôt. Ouais. Merci beaucoup.
J'espère. À bientôt.
À vous.